Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série pour le Podcaston, donc une initiative qui a été lancée par Jérémy Magny et qui donne la possibilité aux podcasteurs de consacrer un épisode de leur choix à une association. Alors, de mon côté, pour des raisons personnelles et parce que le cancer reste malheureusement une des premières causes de mortalité, j'ai choisi Fondation Arc, car je pense aussi qu'on connaît tous un proche, quelqu'un qui est décédé du cancer, et par le biais de cet épisode, je voudrais donc leur rendre hommage, et dédier cet épisode à cette belle association qu'est la Fondation Arc. Alors, j'ai le plaisir de recevoir donc François Dupré, directeur général, et donc Marie-Cécile qui s'occupe de la relation avec les philanthropes et donc les investisseurs pour aider justement à financer toutes les actions pour la recherche contre le cancer. Alors bonjour, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, bonjour. François Dupré, donc merci à nouveau de votre temps et de consacrer votre temps pour parler de la Fondation Arc. Vous êtes donc directeur général. Alors est-ce que pour les auditeurs et pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette fondation, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu général de la mission et des objectifs de la Fondation Arc pour la recherche contre le cancer, s'il vous plaît?
L'objet de la Fondation Arc et sa vocation, c'est de guérir le cancer par la recherche. Notre activité, à, je dirais 95%, c'est de financer la recherche sur le cancer, de financer des programmes de recherche à travers la générosité du public que nous recevons à travers de dons et de notamment également de legs, de testaments que nous avons. Nous avons également une autre activité, parce que c'est indissociable, qui est également d'informer et de faire une forme de prévention par la connaissance sur le cancer en général et sur la recherche en particulier.
Merci beaucoup François. Donc vous êtes donc directeur général. Quel est votre rôle au quotidien dans cette fondation, et voilà, qu'est-ce qui vous a amené aussi à cette fonction? Ce sera aussi intéressant peut-être de connaître un peu votre parcours.
Je me dédie moi-même depuis maintenant plus de 20 ans à des causes d'intérêt général, et depuis presque 8 ans à la Fondation Arc. La recherche sur le cancer avance considérablement. Il y a maintenant 30 ans, on guérissait un cancer sur 3, et là, on est proche d'en guérir 2 sur 3, et les choses avancent tous les jours. Alors, notre premier métier à la Fondation Arc, c'est tous les jours d'expertiser des projets de recherche sur le cancer. Nous en finançons près de 120 par an de tout type, et tout ça est organisé à travers une équipe scientifique de très haut niveau qui est au sein de la Fondation et qui s'appuie sur près de 300 bénévoles scientifiques qui sont en fait des scientifiques mandatés par les instituts de recherche dans lesquels ils travaillent et qui prennent sur leur temps professionnel pour venir expertiser les projets qui nous sont soumis à travers des comités bénévoles qui se renouvellent très régulièrement et qui sont en fait organisés de différentes manières pour, en plusieurs stades, expertiser l'ensemble des projets que nous recevons et à la fin décider au sein d'un conseil scientifique qui va de 12 personnes, de 12 scientifiques de très haut niveau qui vont choisir des projets à financer, qui seront soumis à un conseil d'administration, notre conseil d'administration qui les validera, sachant que notre conseil est dirigé par des personnalités majoritairement non scientifiques pour équilibrer les jeux de pouvoir. Mais profondément, notre organisme est un organisme d'expertise et de financement de la recherche, et aujourd'hui nous finançons pour 30 millions d'euros de projets de recherche scientifique 100% dédiés sur le cancer chaque année.
Bravo François, et merci beaucoup. Alors, vous avez parlé donc de projets que vous sélectionnez en amont. Quels sont vos critères justement pour valider un projet et pour financer ce projet en question?
Il y a, alors, les comités d'experts se réunissent entre eux, et ce sont les comités d'experts qui, en fait, vont analyser et valider les projets. Alors maintenant, comment constitue-t-on les comités? Nous avons trois grands axes de travail à la Fondation ARC qui représentent chacun à peu près un tiers des financements que nous accordons, donc de l'ordre de 10 millions d'euros chaque année. Le premier, c'est le soutien aux talents. Et parce qu'en fait, on ne peut pas parler de recherche sans parler de chercheurs qui, à un moment donné, se mettent ensemble et vont trouver des choses, vont avancer sur des thèmes. Donc, un tiers de notre activité, c'est le soutien des talents, principalement des jeunes chercheurs, c'est-à-dire des chercheurs qui sont en quatrième année de thèse ou bien des chercheurs qui ont déjà eu leur thèse et qui sont en post-doctorant. Nous avons également une autre activité de soutien aux chercheurs par un programme que nous appelons Leader en oncologie et qui nous permet de faire revenir en France des très grandes équipes de chercheurs qui sont installées à l'étranger en accompagnement des instituts et en mettant des montants de l'ordre de 1,5 million d'euros pour faire revenir ces chercheurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les jeunes chercheurs dans les instituts, ce sont eux qui font les programmes de recherche. C'est-à-dire que les chercheurs seniors font de l'orientation, définissent les grands axes, mais quand il s'agit de travailler directement, ce sont ces jeunes chercheurs dans leur phase de thèse ou en post-doctorant qui vont faire les expériences de recherche. Et donc, le choix de ces chercheurs à travers nos comités se fait sur la qualité du programme de recherche qui est proposé par le chercheur. On est toujours dans un programme de recherche. Donc, il y a un tiers de l'activité qui est là-dessus. Il y a un tiers de l'activité à travers de ce qu'on appelle des appels à projets libres, c'est-à-dire la possibilité à tous les chercheurs de France de postuler sur une thématique qu'ils ont. Et ça concerne de la recherche fondamentale. C'est du soutien à la compréhension des mécanismes biologiques du cancer, c'est-à-dire la cancérogenèse. Comment se passe le cancer? D'où il vient et comment fonctionne-t-il? C'est là où se trouvent toutes les innovations. C'est de la recherche de très long terme. Et là, nous soutenons, nous donnons en fait des moyens sur deux ans qui vont dans certains petits programmes pour tester des idées de 70 000 euros à des projets plus importants sur des programmes plus structurés jusqu'à 500 000 euros à peu près sur trois ans. Et puis, troisième axe, ce sont des appels à projets. Là, pour le coup, on se rapproche du patient. Donc, on est dans des appels à projets thématiques. Dans ce qu'on appelle la recherche clinique ou la recherche de transfert, donc pour faire passer des innovations auprès des patients. Et là, on est sur des grands thèmes. Et ces thèmes, alors je vais en citer par exemple un qui est la recherche en immunothérapie. Là, nous en avons quatre grands en ce moment. Et dans le cas précédent, nous étions sur des comités d'experts français, lorsqu'on est sur la recherche fondamentale, qui se réunissent par discipline de biologie. Lorsqu'on est dans la recherche thématique, là, on va être sur des comités d'experts internationaux au niveau européen parce que en recherche clinique ou en recherche de transfert, les équipes sont tellement liées entre elles que vous êtes obligé de réfléchir au niveau international pour ne pas avoir de lien d'intérêt entre les acteurs.
Est-ce que vous allez guider vos recherches vraiment sur ce type de cancers qui sont actuellement pas curables?
Alors, comme les cancers digestifs et le cancer du pancréas aujourd'hui où les taux de survie à 5 ans sont inférieurs à 15%, ce qui évidemment est faible, mais qui quand même permet de garder un espoir significatif pour toutes les personnes qui sont dans ces 15%. Et il faut savoir que il y a eu pendant très longtemps le cancer, il y a eu trois approches pour guérir le cancer. Il y avait la chirurgie qui est toujours utilisé quand on prend les cancers très tôt. C'est pour ça qu'il est important de se faire diagnostiquer très tôt, y compris dans le cancer du pancréas. Ensuite, il y a eu la radiologie et la chimiothérapie. Depuis 20 ans maintenant, sont arrivées deux très grandes révolutions. L'une que l'on appelle les thérapies ciblées, c'est-à-dire la capacité, par une analyse extrêmement fine des cancers, c'est ce qu'on appelle le génotypage de la tumeur, on arrive le séquençage, on arrive à ce moment-là à avoir des thérapies adaptées au profil moléculaire de la personne. Ça, c'est une première évolution. La seconde, qu'on appelle l'immunothérapie, c'est la capacité à réactiver le système immunitaire d'une personne les tumeurs endorment le système immunitaire. Et on arrive maintenant à réactiver le fonctionnement du système pour qu'elle paralyse les tumeurs. ces deux approches-là, qui sont là depuis 20 ans, surtout maintenant qu'on peut les combiner dans des approches tout à fait intéressantes, permettent de trouver des traitements qui s'adaptent à tout type de tumeur. Et il y a aujourd'hui des recherches extrêmement intéressantes, y compris pour les cancers les plus difficiles. On parle par exemple d'une piste pour les cancers du pancréas, de vaccins, mais qui seraient des vaccins curatifs ARN messagers, qui ont donné des résultats tout à fait intéressants. Donc il y a en ce moment une révolution sur le cancer dans les grandes approches scientifiques qui permettent de raisonner au-delà de certains organes globalement sur une personne et nous espérons à terme de guérir dans tous les organes les patients avec des taux de survie qui deviennent de plus en plus élevés.
C'est passionnant et c'est toujours intéressant aussi, même pour la curiosité de comprendre aussi comment le corps fonctionne et comment on lutte justement contre les différentes formes de cancer. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, à nouveau, je m'y connais pas comme vous évidemment, mais est-ce que à terme on pourrait se passer de chimiothérapie, de radiothérapie, qui sont des traitements très très lourds malheureusement. Donc, est-ce qu'à terme il y aurait la possibilité justement d'outrepasser ce type de traitement et aller vers des traitements un peu plus sains et moins peut-être lourds?
Il est certain qu'on arrivera sur des traitements de plus en plus adaptés, de moins en moins lourds. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'on ne va pas continuer sur la chimiothérapie ou sur la radiologie. Par exemple, aujourd'hui, se développe une nouvelle forme de radiologie qu'on appelle la radiologie flash, qui permet de diviser le nombre de séances et d'avoir des actions extrêmement ciblées et rapides sur les patients, évidemment moyennant des investissements très importants. De même, en chimiothérapie, se développent des nouvelles formes de chimiothérapie. Il y en a une aujourd'hui qu'on appelle les anticorps bispécifiques. En fait, c'est des nouveaux médicaments dans lesquels vous avez deux branches. Une branche qui va se coller à la tumeur et l'autre branche qui va amener la chimiothérapie directement dans la tumeur. Ce qui veut dire que vous n'avez à ce moment-là plus les effets de la chimiothérapie autour de la tumeur, vous l'avez juste dedans. Donc, il y aura encore beaucoup d'actions à base de radiologie ou d'immunothérapie combinée à de la chimiothérapie, mais évidemment, ça sera beaucoup plus ciblé, beaucoup plus fin, des doses plus faibles, mais ça restera très fort. La qualité de vie et je dirais que la manière dont les patients sortent, puisque aujourd'hui de plus en plus de patients arrivent à sortir du cancer, est maintenant un axe qui devient absolument majeur, c'est-à-dire qu'on veut essayer que les traitements soient soient évidemment bons, mais les moins agressifs possibles.
Merci François. Donc, je comprends aussi très bien qu'il y a une part de recherche qui nécessite beaucoup d'argent, et donc Marie-Cécile, vous êtes là pour aller chercher aussi ce type de financement et chercher des donateurs. Mais il y a également, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, François, en introduction, vous avez aussi un travail de sensibilisation qui est important. Alors comment justement vous mettez en place et comment vous prenez ce type d'initiative qui permettent de sensibiliser et d'éduquer le grand public sur ce type de recherche et l'importance de donner et de contribuer à la recherche contre le cancer?
Alors, le premier outil de sensibilisation que nous avons, c'est un site internet qui aujourd'hui reçoit de l'ordre de 4 millions de visites par an, donc qui est très important.
Ah oui, effectivement. Je ne pensais pas que c'était aussi...
Vous avez peut-être parcouru ce site également.
Bien sûr.
Et il y a en fait sur ce site une base de données d'informations que nous mettons en permanent à jour. Il y a 75 fascicules que nous avons extrêmement détaillés sur les types de cancers, les préventions sur le cancer, les moyens de soigner le cancer, les moyens de vivre avec un cancer après un cancer. Toutes ces informations sont accessibles, sont téléchargeables et permettent de décrire tout à fait précisément les choses. Nous informons aussi régulièrement sur les avancées de la recherche et nous avons mené une grande action sur ce sujet l'an dernier en en refaisant un livre que nous avions écrit il y a 10 ans, qui s'appelle « Les révolutions de la recherche en cancérologie », qui est un travail de synthèse piloté par le professeur Solari, qui a été président du conseil scientifique de la Fondation Arc pendant 10 ans et qui est aujourd'hui à notre conseil d'administration, et qui fait un point tout à fait détaillé sur les avancées actuelles de la recherche. C'est un livre qui contient d'une centaine de pages, qui est très didactique, que nous avons lancé il y a 1 an, que nous avons relancé là, qui a été diffusé dans plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, qui est téléchargeable sur notre site et qui est un outil d'explication et de compréhension du cancer qui est absolument fantastique. En plus de cela, nous menons des actions de sensibilisation et de prévention. Alors, on en a mené auprès des jeunes. On a fait 2 actions l'an dernier. L'une autour de la vaccination HPV dans un partenariat avec l'agence Avas. Nous l'avons diffusée sur les réseaux sociaux. C'était vraiment comment convaincre de la nécessité de faire cette vaccination et de l'importance. Vous savez qu'aujourd'hui, la vaccination HPV, ça permet, ça a été démontré dans un pays comme l'Australie, d'éradiquer le cancer du col de l'utérus sur une durée de 30 ans, ce qui est considérable. Et nous avons également fait un film sur le cancer des testicules avec Nikki Doll, que vous connaissez certainement, qui est une star de France Télévisions et qui a fait un petit film de prévention à destination des jeunes que nous avons communiqué sur TikTok et qui a d'ailleurs reçu un prix de l'agence de stratégie pour sa qualité. Donc également quelques actions de sensibilisation, notamment auprès des jeunes, mais que nous voulons poursuivre auprès du grand public pour manifester l'importance du dépistage et d'attitude de prévention.
Enfin, bravo pour ces initiatives, parce que effectivement il faut financer, mais il faut aussi éduquer pour montrer l'importance de ce type d'action. Est-ce que vous sentez de votre côté que les jeunes sont entre guillemets comprennent l'importance de cette recherche? Est-ce qu'ils en sont conscients, sauf évidemment peut-être les jeunes qui ont perdu de leur côté des proches atteint du cancer, mais est-ce que de façon générale, vous arrivez à percevoir une sensibilisation justement auprès de ce jeune public?
Il est certain qu'auprès des jeunes, si on arrive à trouver le bon moyen de communication avec le bon ton, le bon porte-parole, le bon média, on a des résultats qui sont spectaculaires. La campagne que nous avons menée sur le cancer des testicules a été vue, je crois, 10 millions de fois.
Ah oui,
absolument, c'est absolument considérable. Donc, évidemment, on peut totalement agir et sensibiliser les jeunes. Il n'y a pas de souci. Il faut simplement trouver la bonne manière de le faire, qui n'est pas celle de personnes plus seniors.
Alors, vous m'excusez de cette question, mais effectivement, quand on parle aussi parfois auprès de donateurs, certains sont toujours frileux de donner des fois des associations parce qu'ils ne savent pas forcément ce qui est fait de l'argent. Alors, je vous pose la question, évidemment, pour que les auditeurs sachent aussi comment vous arrivez aussi à louer le budget qui vous est confié et l'argent qui vous est donné. Comment vous assurez justement donc cette transparence et la responsabilité dans l'utilisation des fonds contre la recherche, pour la recherche contre le cancer?
Comme vous dites, le premier point, c'est la transparence. Et pour commencer sur la transparence, il faut la disponibilité des documents. Donc, sur notre site Internet, et naturellement en écrivant, on le reçoit, mais vous avez l'accessibilité sur nos statuts, nos règlements intérieurs, notre rapport d'activité qui comprend tout un pôle programme et tout un pôle un rapport financier. Tout est détaillé de manière très claire, très transparente, dans des documents extrêmement élaborés. Donc, l'information est disponible. L'important, c'est également qu'il y ait des organes de contrôle extérieur. Ça, c'est majeur. Nous avons, pour la qualité des comptes et la véracité de l'information, je dirais financière, le commissaire aux comptes, qui sont renouvelés tous les 6 ans, qui est un grand cabinet extrêmement sérieux. Également, nous sommes membre du Don en Confiance, qui est un organisme de labellisation du secteur de l'appel à la générosité qui fait tous les 3 ans une analyse extrêmement détaillée de notre mode de fonctionnement et qui fait un rapport dans lequel il nous explique s'il y a des choses qui vont ou ne vont pas. Nous avons également un organisme de contrôle très important qui est la Cour des comptes et qui contrôle nos organismes. Alors ensuite, sur la manière dont nous-mêmes travaillons pour vérifier que l'argent que nous donnons est bien utilisé, il faut savoir que nous avons donc un comité d'audit également extérieur qui regarde nos actions et que nous avons la capacité à auditer tous les programmes que nous finançons. Et les programmes, nous effectuons un suivi scientifique et financier extrêmement rigoureux, c'est-à-dire que à partir d'un projet qui est déposé, nous allons suivre le déroulement du programme sur les années avec des comptes rendus d'activité, des comptes rendus financiers, la possibilité d'aller sur place et un dialogue permanent avec les équipes de recherche pour savoir ce qui est fait des fonds et comment la recherche avance. Sachant que nous travaillons avec tous les instituts de recherche sur le cancer ou les hôpitaux qui font de la recherche sur le cancer en France et que avec la qualité des personnes et des instituts avec lesquels nous travaillons ne fait que nous n'avons aucun doute fondamentalement, mais tout ça est fait dans un cadre extrêmement rigoureux, extrêmement suivi. Aujourd'hui, on connaît vraiment toutes les dépenses que nous faisons et nous, voilà, nous sommes en mesure de rendre compte absolument de tout, donc de donner une confiance complète à nos donateurs par rapport à ce point.
Non, merci beaucoup François. Loin de moi l'idée de vouloir évidemment mettre le doute. Et comme voilà, c'est parfois des craintes justifiées ou non, mais évidemment c'était une question parmi tant d'autres. Merci d'y avoir répondu avec transparence, François. Alors on a compris l'importance justement la part des projets que vous financez, que vous développez au sein de la Fondation. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ou nous donner des projets qui ont été récemment financés par la Fondation ARC et qui sont les plus prometteurs ?
Dans l'ensemble de ce que nous finançons, un des axes les plus prometteurs, c'est ce que nous faisons en matière d'immunothérapie. L'immunothérapie est arrivée en 2014 avec des médicaments disponibles. Aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 1000 essais cliniques en immunothérapie et nous avons lancé depuis 6 ans un programme que nous appelons SINEED, qui sont ce qu'on appelle des recherches de signature en immunothérapie, c'est-à-dire rechercher sur toutes les tumeurs qui existent et tous les organes qui sont concernés par les tumeurs, quels sont le cas où l'immunothérapie, c'est-à-dire la possibilité de réactiver le système immunitaire, va fonctionner ou ne va pas fonctionner. Donc, dans les projets que nous avons soutenus récemment, il y a un projet à Strasbourg, à l'IGBMC du professeur Malouf, qui a permis d'identifier pour le cancer du rein une voie possible d'action extrêmement prometteuse que nous avons financée l'an dernier. Également, nous avons soutenu à Gustave Roussy un projet tout à fait important pendant de très nombreuses années avec le professeur Fabrice André sur des cancers du sein triple négatif qui a permis de montrer que de la chimiothérapie combinée à l'immunothérapie permettait pour des cancers du sein triple négatif d'avoir une démonstration positive et d'allonger la durée de vie des patients concernés de l'ordre de 7 mois, ce qui était une démonstration scientifique extrêmement importante. Donc ça, je dirais que ce sont les autour de l'immunothérapie les deux démonstrations les plus fortes de projets que nous avons en cours. Il y en a d'autres dans d'autres domaines, mais qui sont plus en recherche fondamentale, je dirais.
Merci beaucoup François. Alors quels sont justement les défis majeurs que vous rencontrez dans votre mission de recherche de financement, qu'est-ce qui est difficile dans cette mission-là parce que c'est grâce à l'argent des investisseurs, des donateurs, pardon, investisseurs. J'ai l'habitude de faire des podcasts en lien avec mon métier, du coup, j'ai encore des termes parfois qui m'échappent. Donc, les donateurs, comment vous arrivez à les sensibiliser, à aller les chercher? Est-ce que vous avez des forme de partenariat, voilà, comment ça fonctionne et comment vous faites au quotidien pour aller chercher ces donateurs et qui vous aident à financer ces projets que vous avez mentionnés?
Alors, ce que les donateurs ne savent pas assez, parce que ça ne va pas soi, c'est qu'aujourd'hui, la moitié de la recherche en oncologie et donc en cancérologie est portée par des dons privés. Donc, oui. C'est extrêmement, extrêmement important. Il n'est pas possible aujourd'hui de convaincre un donateur de nous suivre. La Fondation ARC a 160 000 donateurs réguliers, donc c'est très, très, très important. Et en fait, vous ne pouvez pas avoir un engagement dans le don et dans la générosité si vous n'êtes pas convaincu par la qualité des programmes qui sont faits, donc par l'information qui est donnée en permanence sur à la fois la recherche sur le cancer et à la fois sur les programmes que nous finançons et l'explication, en fait, toutes les questions que vous nous posez autour de la manière dont est dépensé l'argent. Ce que nous savons, c'est que vous savez que le cancer, aujourd'hui, il y a de l'ordre de 4 millions de personnes qui vivent en France ayant eu un cancer, qu'il y a plus de 400 000 personnes par an qui découvrent qu'elles ont un cancer. Donc, en fait, il y a énormément de questions qui nous arrivent, énormément de gens qui se posent des questions sur le cancer. Et donc, nous arrivons, que ça soit par de la communication papier, que ça soit par de la communication digitale, que ce soit autour de donateurs importants, par des rencontres en direct et les présentations de programmes, en fait, tout cela relève d'utilisation de techniques, mais qui, à la fin, porte sur une conviction, c'est voilà ce que nous allons faire avec votre argent et voilà comment nous allons faire avancer la recherche qui permet de guérir.
Alors, Marie-Cécile, une question aussi pour toi qui t'occupe de la relation avec les entreprises et les donateurs. Quelles actions vous menez auprès des entreprises pour vous aider à financer ces différentes recherches contre le cancer?
Alors effectivement, nous sommes d'une petite équipe qui va donc gérer tous les grands mécènes, les grands philanthropes et les entreprises mécènes de la Fondation ARC, car effectivement en tant qu'entreprise ou à titre individuel par une fondation individuelle, il est également possible de donner à la Fondation ARC. Pour ce type de public, nous avons effectivement des façons d'engager, donc que ce soit les collaborateurs d'une entreprise. Nous proposons effectivement des packs entreprises à des événements de levée de fonds, par exemple pour Octobre Rose, pour le cancer du sein avec le triathlon des roses, sur lequel nous engageons chaque année des dizaines d'entreprises et leurs collaborateurs. Il est possible effectivement par sa fondation individuelle de s'engager également pour la Fondation ARC. Nous avons donc, comme je vous le disais, une équipe dédiée et n'hésitez pas du coup à rentrer en contact directement avec nous si vous envisagez d'effectuer un don conséquent, que ce soit effectivement pour réaliser du coup des visites de projets ou obtenir des rapports qui sont personnalisés sur des projets fléchés. Nous offrons en tout cas un accompagnement personnalisé avec mon équipe.
Merci beaucoup Marie-Cécile. C'est important parce qu'effectivement même de mon audience de base sur mon podcast, effectivement il y a pas mal de dirigeants d'entreprise et en France on a aussi la chance de pouvoir donner avec une fiscalité aussi qui est intéressante, donc qui permet de donner en ayant quand même des réductions d'impôts qui sont quand même intéressantes. Donc je vous rappelle aussi qu'il y a cette possibilité là. Donc n'hésitez pas dirigeants d'entreprise à donner et à participer à votre manière à la contribution contre le cancer, enfin sur la recherche contre le cancer. Donc un grand merci Marie-Cécile pour cette question.
On peut donner à partir de, il y a un montant minimum
On peut aller sur notre site internet et faire un don de manière très très simple sur notre site à partir du montant qu'on veut. Si on veut avoir un reçu fiscal, il faut faire au moins 5 €, hein. Mais évidemment, plus on donne et mieux c'est. D'autres méthodes, c'est d'avoir un prélèvement automatique, hein, d'être en prélèvement automatique auprès de la fondation, sinon d'envoyer des chèques à notre fondation. Nous, nous traitons directement les chèques. En fait, tous les modes de paiement sont possibles, y compris les nouveaux modes de paiement qui se développent maintenant sur le digital. Et évidemment, nous acceptons tout type de dons. Également, nous menons des opérations, nous recevons des dons par SMS.
Ah, bah, très bien. Et grâce à la technologie.
Nous avons, l'an dernier, nous avons eu une opération qu'on a appelée Mobilisation Cancer l'an dernier à l'initiative du groupe TF1, et il y a eu des appels en dons par SMS qui ont très bien fonctionné.
Et chaque année, vous organisez des campagnes de dons de grande ampleur, on va dire, où c'est beaucoup plus des actions ciblées auprès de donateurs que vous avez aussi ciblés. Comment ça se passe pour essayer d'aller chercher des nouveaux donateurs, même si évidemment, comme vous l'avez dit, on ne peut pas convaincre quelqu'un de donner, il faut qu'il soit convaincu par le projet et par ce combat-là. Donc voilà, est-ce que vous organisez malgré tout des campagnes de sensibilisation et de récolte d'argent chaque année ?
Nous organisons en permanence des campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour recevoir de l'argent. La raison étant que voilà, le cancer, la recherche sur le cancer avance et la lutte contre la maladie avance. Les personnes concernées sont extrêmement demandeuses, qu'elles soient elles ou leurs proches, d'informations. Et donc cette mobilisation permanente que nous organisons, que ce soit sous des communications, encore une fois, qui peuvent être digitales, qui peuvent être en face à face, qui peuvent être sous le plan d'envoi de courrier, nous organisons ces communications autour de l'information et en fait nous touchons les personnes à travers ça.
Merci beaucoup François. On sait aussi qu'en France il y a des disparités en termes d'accès aux soins. Comment la Fondation ARC justement aborde-t-elle ces disparités, notamment voilà, sur la recherche sur le cancer, et comment vous permettez aussi à tout type de bénéficiaires de bénéficier justement de ces soins, même si elles n'ont pas toutes les mêmes accès et les mêmes peut-être voilà, les mêmes financements et les mêmes rémunérations, parce que c'est un coût. Donc voilà, comment vous abordez ce sujet-là auprès des bénéficiaires de ces recherches?
Un des points sur lequel nous sommes tout à fait sensibles et que vous mettez bien en avant, c'est qu'on peut avoir des modes de recherche et soutenir des modes de recherche qui permettent d'aller vers de la détection précoce, c'est-à-dire l'identification en amont des cancers, et développer des technologies qui permettent de détecter des cancers plus tôt, avec des technologies qui seraient beaucoup plus accessibles à l'ensemble des centres hospitaliers. Et par exemple, avec l'IHU de Strasbourg, nous travaillons sur un projet qui s'appelle APEUS, qui permet de mettre à disposition une technologie beaucoup plus accessible de diagnostic du cancer du pancréas, qui s'appuie sur un couplage entre une légère intervention et de l'intelligence artificielle pour être capable de visualiser le pancréas. Et cette technologie nouvelle qui est en train de se mettre en place sera accessible dans de très nombreux centres sur la France. Donc en fait, on travaille là sur des projets de recherche qui permettent de rendre possible la détection précoce un peu partout. Mais le projet de recherche, lui, il est conçu dans un centre archi spécialisé parce que voilà, la conception ne peut pas être faite partout. Par contre, l'utilisation.
Merci François. Vous venez de mentionner justement cette avancée sur le cancer du pancréas grâce à l'intelligence artificielle et de nouvelles technologies. Donc, comment vous arrivez à vous adapter à ces évolutions technologiques et scientifiques dans le domaine de la recherche ?
Aujourd'hui, c'est impossible de mener une recherche d'accompagner des grandes équipes de recherche sans être dans le suivi technologique. Donc, nous le faisons de deux manières. D'abord, en recherchant les questions scientifiques les plus pointues systématiquement pour aller les accompagner dans les financements. Et d'autre part, en travaillant sur les experts que nous avons au sein de nos comités et sur les compétences que nous mettons au sein de nos comités. On sait que la recherche demain va être fondée sur une analyse extrêmement détaillée au niveau vraiment le plus fin possible des composantes moléculaires des individus, on va vers une médecine très personnalisée. Et la notion, par exemple, d'introduire des bioinformaticiens dans les équipes qui analysent les programmes est un point important. Donc, en fait, nous travaillons au fait également sur le fait d'intégrer des compétences supplémentaires dans les experts qui travaillent sur les programmes que nous choisissons. Donc, avec un renouvellement des équipes, avec des expertises qui connaissent de plus en plus les nouvelles technologies en cours de développement.
Quel message vous aimeriez en fait transmettre au public concernant la Fondation ARC notamment et surtout l'importance du soutien à la recherche sur le cancer?
Je voudrais fondamentalement remercier les donateurs et faire passer un message très important au grand public sur leur engagement. La recherche en cancérologie avance de manière très importante. On espère un jour contrôler le cancer dans le très long terme. Mais pour cela, nous avons besoin de moyens pour financer les programmes de recherche. Aujourd'hui, la moitié de la recherche en France est financée grâce à la générosité du public. Donc, nous avons besoin de ces moyens-là. Par ces moyens, nous finançons les recherches les plus importantes. Aujourd'hui, ce sont 30 millions d'euros donnés chaque année qui vont 100% à des programmes de recherche. Cet argent qui est récurrent permet de structurer les équipes, permet de faire des collaborations entre équipes, de travailler à l'international, d'aborder des très grandes questions. Donc, nous avons besoin de ces soutiens pour avancer toujours dans des résultats de plus en plus performants avec de plus en plus de guérisons à terme. Voilà. Donc, un engagement dont nous remercions profondément le public et que nous attendons toujours plus.
Merci beaucoup. C'était un échange qui est passionnant et qui était important pour moi. Je voudrais aussi vraiment vous remercier François et Marie-Cécile parce que c'est vrai qu'on ne parle pas assez aussi des personnes qui contribuent au quotidien à cette recherche, quelle que soit la fonction que vous occupez, vous aidez justement dans cette recherche-là. Et donc, je voudrais, par le biais de cet épisode, vous remercier et remercier aussi toutes les personnes, les chercheurs, le public, toutes les personnes qui contribuent à cette recherche qui, pour moi, est fondamentale et importante. Donc voilà, c'est pas évident de faire aussi ce que vous faites au quotidien. Et vraiment, voilà, un grand merci pour vos actions et pour tout ce que vous faites pour le monde et pour la médecine en général.
Merci beaucoup.
Et évidemment, pour les personnes qui nous écoutent, je mettrai donc le lien de la Fondation ARC pour que vous puissiez à la fois regarder ce qu'ils font, regarder tous les projets qui ont été financés par la Fondation et évidemment, et pourquoi pas, donner ce que vous pouvez, quel que soit le montant. Le plus important, c'est de contribuer à votre façon à cette recherche-là. Donc, à nouveau, un grand merci, Marie-Cécile et François, et on espère échanger très rapidement. Et j'espère aussi que cet épisode permettra de sensibiliser encore un peu plus sur l'importance de la recherche contre le cancer. Merci à vous.
Merci.
Merci.